J'aimerais célébrer le fait que nous soyons ici, maintenant, pour pratiquer metta et pour écouter le Dhamma. Et le thème de l'exposé aujourd'hui, c'est la célébration. Le Bouddha a dit: j'enseigne la souffrance et la fin de la souffrance. Et souvent, il disait, j'enseigne une seule chose, la souffrance et la fin de la souffrance. Donc, on a souvent l'impression que la pratique du Dhamma, elle est focalisée sur la souffrance. La fin de la souffrance, le but ultime de cette pratique, ne veut pas dire que le bonheur, il est là loin, à la fin du chemin. Le chemin que le Bouddha propose est en fait un chemin de bonheur, un chemin de joie, un chemin de plaisir tout le long du chemin. Le Bouddha a présenté ce chemin qui amène à la fin de la souffrance, le noble octuple sentier qui apparaît à la fin des quatre nobles vérités, avec la tâche de le parcourir, de le cheminer, pour qu'il continue à être un chemin. Et un des huit, donc parties de ce chemin, c'est l'effort juste. Et le Bouddha présente cet effort juste en quatre parties. Il dit, et qu'est-ce que c'est l'effort juste? La première, il y a le cas où le méditant engendre, entreprend, exerce son intention en vue de la non-apparition des qualités non habiles, qui ne sont pas encore surgis. La deuxième aspect, il s'exerce son intention en vue de l'abandon des qualités non habiles qui ont déjà surgi. Troisième, il exerce son intention en vue de la naissance de l'apparition des qualités habiles qui ne sont pas encore surgit, qui ne sont pas encore nés. Et la dernière partie, il exerce son intention pour maintenir, développer, augmenter des belles qualités du cœur qui sont déjà nées, qui sont déjà surgies. Donc ceci, on nomme l'effort juste, il dit. Et là, cette semaine, on pratique metta. Elle rentre dans ce contexte de l'effort juste, justement, je la vois dans ces deux dernières parties de l'effort juste. Ça veut dire de développer, de maintenir, d'augmenter cette belle qualité du cœur, de la bonté, de la bienveillance, de la gentillesse. Et de faire naître aussi cette qualité quand elle n'est pas là. Et metta fait naturellement partie de tout le chemin, tout le noble octuple sentier. Ça veut dire de la vie juste, de la pensée juste, de la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence juste, l'effort juste, l'attention juste, sati, et la concentration juste, samadhi. Mais c'est vraiment dans le contexte de l'effort juste que elle est développée, qu'on développe metta. Et en pratiquant metta, nous remarquons qu'il y a des conditions qui font qu'ils métasurgissent en nous. Et une de ces conditions, c'est la célébration. La célébration, elle nourrit la joie, elle nourrit le bonheur, notre capacité à être touché par la beauté, à pouvoir ouvrir le cœur. Et qu'est-ce que la célébration? La célébration, c'est de s'arrêter, de reconnaître, de faire une pause, être présent à ce qui est là en ce moment, de s'ouvrir à ce qui est là, de devenir de plus en plus conscient de notre expérience dans l'instant présent et aussi d'apprécier ce moment, de l'honorer, quel qu'il soit, quelle que soit cette expérience. Donc avant tout, faire une pause, s'arrêter, plutôt que de continuer à courir, à chercher une autre chose et ailleurs. Souvent, nous avons cette impression dans nos vies que nous sommes en train de courir une chose après l'autre. Et il y a quelque part, avec la célébration, nous permettons de vivre ce rythme naturel des choses, de la vie, de prendre ce temps vital, naturel, un temps d'intégration. Comme exemple, par exemple, la respiration. Avec l'inspire, nous avons plus d'énergie, nous amenons de l'énergie et ça doit être suivi d'un expire, une détente. Donc, dans la respiration, nous voyons ce rythme vital. Activité, puis pause, intégration. Et j'aimerais mentionner John Croft, qui est un monsieur australien qui a travaillé plusieurs années à Genève dans l'Organisation internationale du travail et qui, après de nombreuses expériences avec le travail de beaucoup de projets dans le monde, il a réalisé que la plupart des projets, ils échouaient, ils n'arrivaient pas au but, ils n'arrivaient pas à la fin. Et il a réalisé qu'il y avait quelque chose qui manquait dans ses projets. Et c'était justement ce temps de célébration. Donc il a créé quelque chose qu'on appelle Dragon Dreaming, qui a grandi et surtout pour soutenir ces mouvements, ces projets populaires, ces projets communautaires qui sont surtout orientés vers la durabilité. Et Dragon Dreaming est réparti, en fait, réparti le projet en 4 étapes. La première étape, c'est de rêver ensemble. Donc, d'avoir une intention, de former une intention ensemble. La deuxième, de planifier. La troisième, d'implémenter. Et la quatrième, de célébrer. Et il a dit, il a conseillé, il a structuré donc cette approche en disant, la célébration aurait autant d'énergie, autant de ressources et autant de temps que toutes les autres parties. essentiel pour le rythme des choses. Il y a une citation de John Croft qui est « Si ce n'est pas plaisant, ce n'est pas durable. Si ce n'est pas jouissant, ce n'est pas durable. » En anglais, « If it's not fun, it's not sustainable. » Et j'ai aussi beaucoup appris avec les chevaux pendant les années où j'ai fait un peu de dressage de chevaux. Je me suis rendu compte, en fait, c'était les chevaux qui me dressaient moi. Parce que c'était moi qui apprenais, en fait, ce temps de célébration avec eux. C'était tellement naturel en eux. Quand ils faisaient quelque chose de bien, il y avait naturellement ce besoin de faire une pause, de célébrer. Et il faisait, pourrait faire tout ce que je voulais qu'il fasse s'il y avait effectivement ce temps de pause en suivant ce rythme. Donc, la nature est là, beaucoup à nous apprendre par rapport à la célébration. La célébration, c'est aussi une façon de changer une tendance que nous avons à voir ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas complet, qui est une tendance qui vient du point de vue de l'évolution. Cette tendance, elle a en fait aidé à survivre, remarquer où il y a le problème. Ça nous a aidés en tant qu'espèce à être là, à pouvoir survivre. Et du point de vue de la neuroscience, nous savons aujourd'hui que plus une action est répétée, une action qui peut être une action de l'esprit, et inclut ces actions mentales, plus elles deviennent automatiques. Donc la célébration est l'action opposée qui permet de rééquilibrer cette attention biaisée, cette tendance biaisée à voir ce qui ne va pas bien, ce qui n'est pas complet. Donc, c'est aussi la célébration en antidote à l'aversion. Le premier jour que j'étais ici, je me suis un peu baladée et je me suis dit, il n'y a pas assez d'arbres ici. Je marche au soleil toute la journée. Donc j'ai remarqué de la frustration, un peu de colère qui surgit. Et tout comme Patricia l'a décrit, hier, tout d'un coup, un moment de reconnaissance. J'ai repéré cette frustration, cette colère. Est-ce que je peux prendre un moment de pause, apprécier, m'ouvrir, accueillir ce qui est là? Accueillir ces émotions, elles font partie de ce moment, de mon expérience. Donc cela m'a permis en fait d'avoir plus d'espace, d'intégrer toute mon expérience, d'honorer tout, la totalité de l'expérience. Et avec cet espace, j'ai pu réorienter mon attention et voir qu'en fait il y a beaucoup d'arbres tout autour, il y a toute une forêt. Et quelle chance de pouvoir respirer cet air pur qui vient de ces arbres. Donc, plus on augmente cette capacité à célébrer, plus elle est accessible à tout moment. Qu'est-ce qu'on peut célébrer aujourd'hui? Je nous invite peut-être à prendre quelques instants pour penser qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui dans notre expérience, qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui, qu'est-ce qui est présent pour nous qu'on puisse célébrer. Peut-être nos efforts de pratique depuis que nous sommes arrivés, de persister avec la pratique de bienfaits, de metta, de développer cette qualité du cœur, de prendre le temps de venir en retraite. Peut-être célébrer les autres méditants, nos collègues de parcours, de retraite, célébrer la nature, les cadeaux que nous recevons chaque jour, l'eau, la nourriture. Donc, il y a plusieurs façons de célébrer et beaucoup de choses que nous pouvons célébrer. Et j'aimerais nommer quelques façons de célébrer qu'on peut intégrer dans notre pratique de metta ici. Une, c'est la célébration de nos qualités. Déjà, c'est de reconnaître ces qualités et puis de les célébrer, de les apprécier. Les qualités de générosité, de patience, de détermination. Et plus on les célèbre, plus on s'ouvre et on demeure, plus elles grandissent. Et célébrer ses propres qualités n'est pas narcissique comme on pourrait penser. En fait, dans notre société, nous n'avons pas assez de célébration de nos qualités. Et souvent, peut-être, nous passons plus de temps à voir, évaluer, qu'est-ce que nous jugeons devoir améliorer. Qu'est-ce qu'il faut encore changer? Mais peut-être que vous remarquez en m'écoutant en ce moment qu'il y a peut-être des résistances à la célébration. Peut-être certains d'entre vous pensent que il ne mérite pas, ou tout simplement que c'est un tout petit peu difficile de se donner de la valeur. Et c'est OK qu'il y ait des résistances. En fait, on est en train d'exercer un muscle du bonheur, une compétence, la compétence du bonheur. Et cela demande aussi de la pratique, de la réorientation. Dans les textes bouddhiques, le Bouddha lui-même, il célèbre beaucoup ses propres qualités, il célèbre les qualités des méditants. Ils célèbrent leurs bonnes actions. Et une des qualités en lui-même qu'il célèbre, sait que ses actions sont en accord avec ses valeurs. Les actions sont en accord avec ce qu'il enseigne. Il y a un petit verse de Dhammapada que j'aimerais lire. Il se réjouit dans cette vie, il se réjouit après cette vie. Dans tous les mondes, le faiseur de belles actions se réjouit. Il se réjouit extrêmement, voyant ses actions habiles, absentes d'hostilité. Il se réjouit. Vous avez peut-être remarqué le nombre de fois que le mot « réjouit » a été prononcé. Et le dernier, c'est moi qui ai rajouté. Donc il y a en fait cette invitation à se réjouir de ses actions. Et la pratique des préceptes que j'ai décrit, que j'ai proposé le premier soir, nous donne une opportunité pour la célébration, pour la pratiquer. Nous pratiquons les préceptes, cet aspect éthique, de façon à bien enregistrer, ici en retraite ou en dehors de retraite, les perceptions quand nous avons, par exemple, respecté le silence de quelqu'un ou le nôtre en s'arrêtant dernière minute avant de parler, ou peut-être éviter de tuer une moustique qu'on voit qui est en train de nous prendre le sang. Donc nous enregistrons ces actions. Et après, nous pouvons ressortir une de ces actions enregistrées en nous. Et cela n'a pas vraiment besoin d'être quelque chose d'exceptionnel. Tout simplement, on constate notre intention qui est chargée de metta, qui n'a pas d'hostilité et une volonté de ne pas blesser, de ne pas nuire. Et on demeure. Donc on fait appel à ce souvenir et on peut demeurer. On remarque les sensations dans le corps de ce souvenir, de cette action. On se laisse savourer. Et je nous invite de prendre quelques instants maintenant pour nous souvenir de quelque chose que nous avons fait aujourd'hui. Une simple action, un simple geste, une simple gentillesse. Et avec ce souvenir, ressentons dans le corps les effets de ramener, de se rappeler de cette action en demeurant dans ce ressenti, dans cette célébration d'une action chargée de bienveillance. remarquant les effets en nous, dans notre cœur, dans notre corps. Nous avons donc cette possibilité d'intégrer la célébration dans notre pratique de méditation, de metta. Peut-être en prenant quelques instants au début d'une assise pour ressortir une action enregistrée. Et pour se donner ce temps d'appréciation, de célébration de ces actions. Et si nous avons une autre catégorie, un ami, un bienfaiteur, de la même façon, nous pouvons évoquer aussi et apprécier des belles qualités qui nous inspirent, de la gratitude, et de prendre ce temps de célébrer ces qualités. Je me rappelle d'une histoire une fois que j'étais à MS aux États-Unis en enseignant. Greg Scharf, il a partagé une petite histoire. Et quand il l'a partagée, je n'avais pas tout à fait accès vraiment au sens qu'il a donné. Mais petit à petit, ça a fait beaucoup de sens pour moi. Il a dit qu'il avait enseigné un week-end avec un ami, une retraite d'un week-end, et qu'à la fin de cette retraite, cet ami s'est tourné vers lui et lui a dit « On a fait quelque chose de bien. On a fait quelque chose de bien. » Et lui, il s'est tourné vers l'ami. Il a dit, c'est vrai, on a fait quelque chose de bien. Donc il y avait dans cette histoire et dans la façon dont il a partagé vraiment cette appréciation, ce moment de célébration d'une action de partage du Dhamma. De vraiment se donner ce temps d'intégration, de valorisation, de faire du bien, de reconnaître, de faire du bien, ça fait du bien. Donc ce temps d'intégrer le bien en nous, dans notre corps, dans notre esprit, cette unification de corps-esprit dont Patricia a parlé. Nous avons aussi des opportunités de célébration en pratique formelle, par exemple dans la marche méditative, ou tout simplement quand nous allons marcher en forêt ou en village. De se faire toucher par la beauté, de se laisser toucher par la beauté, de célébrer cette beauté de la nature. célébrer aussi peut-être le fait de marcher lui-même. Une fois, j'ai entendu quelqu'un dire, et je me rappelle qui c'était, je me rappelle pas qui c'était, qui a dit, il y a un miracle qui est écrit sur la Bible de marcher sur l'eau. Cette personne a dit, le miracle, en fait, n'est pas de marcher sur l'eau. Le miracle, c'est de marcher. C'est un miracle de marcher. Donc vraiment de célébrer ces miracles que nous avons accès. Il y a une autre pratique formelle qui peut aussi être intégrée et je vais la mentionner brièvement parce que Patricia en parlera un peu plus aussi. C'est cette pratique de mudita, traduite comme la joie empathique, la joie bienveillante. Ça veut dire célébrer le bonheur des autres, célébrer le bonheur d'autrui. Donc remarquez qu'il y a le bonheur déjà, de voir, d'être présent, de pouvoir reconnaître le bonheur dans l'autre. Il y a le bonheur, de pouvoir être témoin de ce bonheur. Et puis de se réjouir de ce bonheur, de souhaiter qu'il augmente, qu'il continue. C'est encore une autre façon de célébrer. Et puis dans tous ces aspects de la célébration, dans ces possibilités, en amenant le corps avec cette unification corps-esprit présent, remarquant toujours en pratique quel est l'effet de cette célébration dans notre corps. Donc célébrer, qu'est-ce que ça amène? Il y a peut-être trois grandes parties, on pourrait dire, dans le résultat, comme j'ai dit au début. La célébration, c'est une des conditions pour que Metta surgisse en nous. Donc célébrer, ça amène, ça soutient le développement de Metta, de la joie, du calme, de la générosité. Parce que quand nous célébrons, nous avons la sensation d'avoir une abondance, donc de pouvoir partager. Le deuxième aspect de célébrer permet d'amener de la lumière à nos valeurs les plus profondes. Et de cette façon aussi de se ressourcer. Nous sommes en accord avec ces valeurs, nous nous ressourçons. Et plus nous avons accès à ces ressources, plus nous avons la capacité à être avec ce qui est difficile dans nos vies. Donc, une augmentation de cette capacité pour la compassion. pour faire face, pour englober toute notre expérience. Avec douceur, gentillesse. Et le troisième aspect que j'aimerais mentionner, c'est le développement de la sagesse. Et le but de la sagesse, c'est de discerner. C'est le discernement, de discerner où trouver le bonheur, qu'est-ce qui est habile, quelles actions de l'esprit et du corps amènent au bonheur. Et ici, en retraite, en pratiquant depuis quelques jours, nous remarquons peut-être que l'esprit devient de plus en plus sensible. Il devient de plus en plus sensible et subtil à ces manières dont nous dirigeons des fois vers le stress, la souffrance en investissant dans l'aversion, et les manières dont nous dirigeons vers le bonheur, la joie, le calme, en développant la bienveillance. Metta. Et j'aimerais lire un petit extrait d'un texte du musicien André Manoukian, de son livre « Sur les routes de la musique » qui a apparu en 2021. Ce petit texte s'intitule « L'illuminé de Vincennes ». Par un après-midi d'octobre 1749, Jean-Jacques Rousseau, alors dans sa 38e année, décide de rallier à pied Vincennes depuis Paris. Il fait très chaud pour la saison. On croirait que ce serait aujourd'hui. Il fait très chaud pour la saison, mais ça ne rebute pas notre homme qui est un excellent marcheur et qui, de toute façon, n'a pas de quoi se payer une calèche. Il va visiter son ami Diderot, emprisonné au château de Vincennes, pour avoir écrit un traité philosophique intitulé « Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient ». Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient, dans lequel il est dit qu'au fond, il y a autant de manières de percevoir le monde que d'individus. Cette phénoménologie de la perception avant l'heure valait-elle prison? Donc la sagesse de réaliser qu'il y a des multiples façons de percevoir le monde. Quelles sont les perceptions que nous choisissons. Nous avons le choix de l'objet et de la relation à l'objet de l'attention. Quel objet nous choisissons et quelle relation nous choisissons. Voilà quelques mots de réflexion et je propose juste quelques moments de silence pour laisser tomber les mots.